Luc au chapitre 22, le seul verset. Pardonnez-moi, 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Et je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. »
Luc chapitre 22, verset 54. Alors, il se saisit de lui et le conduisit dans le palais du grand prêtre. Pierre le suivait de loin. 55. Au milieu de la cour, on avait allumé un feu et les gens s'étaient assis autour. Pierre se mêla au groupe. 56. Une jeune servante, en le voyant là, près du feu, l'observa attentivement à la clarté de la flamme et fit remarquer. En voilà un qui était aussi avec lui. 57. Mais Pierre protesta. « Ma fille, je ne connais même pas cet homme. » 58. Peu après, quelqu'un d'autre, en apercevant Pierre, l'interpella. « Toi aussi, tu fais partie de cette bande. »« Mais non, » déclara Pierre, « je n'ai rien à voir avec eux. » 59. Environ une heure plus tard, un autre encore soutint avec insistance. Pas de doute, cet homme-là était aussi avec lui. D'ailleurs, c'est un Galiléen. Verset 60. « Mais non, je ne sais pas ce que tu veux dire, » s'écria Pierre. Au même instant, pendant qu'il était encore en train de parler, le coq s'est mis à chanter. 61. Le Seigneur se retourna et son regard rencontra celui de Pierre. Alors Pierre se rappela que le Seigneur l'avait prévenu. « Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras déjà trois fois renié. » Verset 62. Il se glissa dehors et pleura amèrement.
Amen. Ces deux passages sur lesquels nous allons nous focaliser ce soir nous enseignent un principe important qui a même fait l'objet d'un enseignement, je pense, plusieurs dimanches. Ces deux passages nous enseignent que les combats spirituels est une réalité. Et nous avons donné plusieurs définitions du combat spirituel durant ces plusieurs dimanches. Je vais juste en faire ressortir deux. Parler du combat, c'est parler d'une lutte dans laquelle sont engagés deux ou plusieurs adversaires qui s'attaquent et se défendent en faisant usage de tous les moyens dont ils disposent. Lutte dans laquelle sont engagés deux ou plusieurs adversaires qui s'attaquent et se défendent. C'est-à-dire on donne des coups, on essaie d'en éviter en faisant usage de tous les moyens dont on dispose. Deuxième définition, c'est échange dans lequel on se donne des coups avec comme finalité dominer l'autre, prendre de l'ascendant sur lui et même l'écraser. Dans un combat, on ne se caresse pas. Le but, c'est pas de se faire plaisir. Le but, c'est il y a échange, mais le but, c'est qu'on donne des coups. Et on essaie, du reste, dans les académies des militaires, on étudie les endroits vitaux. Où est-ce qu'il faut donner les coups pour que facilement quelqu'un puisse être réduit. Tous ceux qui ont fait des études de commando, de garde du corps et autres, on leur apprend ça. Ça ne sert à rien de donner un coup par-ci. Donne là. Tu fais deux fois, il est KO. Et nous parlons de cette réalité où l'on donne des coups, mais on les donne sur le plan spirituel. C'est-à-dire, cela ne se passe pas dans les physiques, cela ne se passe pas dans les palpables, cela ne se passe pas dans les visibles. Et à ce niveau, il est important que nous puissions savoir certaines choses. Nous avons mentionné durant cette semaine, durant ces plusieurs semaines, mais il est quand même bon de le mentionner. L'une des premières choses, c'est que dans la vie, et dans le monde, il n'y a pas que les physiques et les palpables. Il y a bien plus que ce que je vois et ce que je touche. Il y a des choses invisibles parce qu'éloignées. C'est-à-dire loin de mon regard. Je ne vois pas la planète Mars, mais ce n'est pas pour autant que la planète Mars n'existe pas. Donc, il y a certaines choses éloignées, mais ce n'est pas parce qu'elles sont éloignées que mes yeux ne voient pas qu'elles n'existent pas. Est-ce que tu vois l'Europe? Mais l'Europe existe. Est-ce que tu vois un point noir maintenant? C'est éloigné de mes yeux, mais ce n'est pas moins réel. Mais il y a des choses aussi invisibles à cause de leur état. Le vent est invisible à cause de son état. Mais le fait qu'il soit invisible ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Les ondes sont invisibles. Mais ce n'est pas parce que les ondes sont invisibles qu'il n'y a pas existence d'ondes. Et malheur à celui qui dit « je ne crois qu'à ce que je vois ». Parce qu'il y a bien plus que ce que nous voyons. Mais deuxième grande vérité, c'est qu'il y a un monde spirituel qui a influence sur le monde physique. Et même quand je parle de ce monde spirituel, je ne veux même pas toucher les choses spirituelles telles que vous et moi, nous parlons. Aujourd'hui même, en psychologie, en psychanalyse, on découvre que l'homme est plus que physique. Et même l'aspect psychique est d'une grande importance. Du reste, en médecine, on considère non pas que quelqu'un est mort quand le cœur a cessé de battre. Mort clinique. Quelqu'un peut avoir un cœur qui ne bat plus, mais ce n'est pas pour autant que la vie a cessé. En médecine, on considère que quelqu'un a cessé de vivre quand le cerveau a cessé de fonctionner. On a même été étonné, on a fait une étude, je pense, dans un pays d'Amérique latine, pour des gens qui ont été enterrés entre 1400 et jusqu'à 1700. Et on a retrouvé plusieurs personnes enterrées dans une certaine position et on les a trouvées comme s'ils étaient en train de se battre. Après, comme pour dire cliniquement mort, on les a enterrés, mais le cerveau a repris et puis en essayant de se battre, donc ils sont morts dans la mort. Parce qu'on les a mis à l'endroit des morts, c'est là où vraiment ils sont allés mourir réellement. Et comme je dis psychologue et surtout psychanalyste, j'ai une amie à mon épouse qui fait des études en psychanalyse, il dit si tu maîtrises ces choses, tu peux devenir même un manipulateur. Et dans ces domaines-là, on voit des gens que l'on soigne par hypnose. Je ne vais pas dire qu'il faut pratiquer ça. Ça n'a pas toujours un aspect forcément diabolique. C'est vrai, il y a un niveau. Mais c'est pour montrer qu'il y a des forces du mental. Où l'on peut parler à quelqu'un, vous voyez un patient, on lui parle de certaines choses par répétition, et puis la personne s'endort sans somnifère, sans certaines choses, simplement pour montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui ne sont pas aussi moins réelles. Dans le monde mystique, on parle de l'autosuggestion. Quelqu'un qui t'oblige à agir. Toi, tu penses que c'est toi qui agis. Je vous ai parlé une fois ici, j'ai connu un ami qui est maintenant en Europe, en France, à Lyon, converti. Mais avant sa conversion, il était dans les sciences occultes. Et il nous relatait combien il utilisait ces choses. Ce sont des techniques qu'eux font dans leur domaine. Il habitait quelques immeubles et lui, il était, je pense, au cinquième ou sixième niveau. Il faisait la cour à une jeune fille qui était au rez-de-chaussée. Il disait, il suffisait de quelques concentrations et il appelait par l'esprit. Roland, allez, viens, Roland, viens. Moi, là où je suis, il n'y aura pas de personne. Moi, j'ai l'impression que je suis dans le monde spirituel. Et dans leur truc, ils appellent ça auto-suggestion. On parle de la télépathie. Tout ça, c'est dans le monde des esprits. Donc, il y a un monde spirituel qui influence le monde physique. Mais dans la Bible, nous voyons des réalités spirituelles que nous ne pouvons pas expliquer, des mystères. Exode chapitre 17, verset 11, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, enfin Moïse plutôt, a appliqué ses méthodes. Quand il avait les mains levées, il y avait victoire sur les champs de bataille. Quel rapport y a-t-il entre les mains et la force que les gens peuvent avoir sur les champs de bataille? Il dit à son peuple, placez des javelots que ça regarde dans telle direction. Comme pour dire, tous ceux qui sont cérébrales, logiques, vous risquez de rater des choses spirituelles simplement parce que vous ramenez tout à la raison. Il y a des choses spirituelles que la raison ne peut expliquer. Il y a eu un grand homme, je ne sais pas si le prophète Joël Francis a entendu parler de lui, un grand homme qui faisait des miracles. Et bizarre, c'est les méthodes que Dieu utilisait pour faire des miracles, ça cassait les puristes. Certaines fois, quand il amenait des paralytiques, il amenait, on les plaçait là, il commençait à leur donner des coups de pied. Coups de pied, pas. Mais papa Mouta, ça, j'ai besoin de mettre. Coup de pied, à quoi il t'a télé miabik? Comment expliquer ça? Alors, c'est lui qui est trop théologique, qui a une licence en théologie. Expliquez-moi. En grec, ça veut dire quoi? Eschatolo. Il y a des choses que ni grec ni hébreu ne peuvent expliquer, mais qui sont bien présentes. Daniel chapitre 10, verset 13. Un homme a prié. Il attend que la réponse arrive. Dans le naturel, il ne voit rien. Ce qu'il ne sait pas que dans le monde spirituel, des choses se passent. Daniel dit, l'ange vient dire à Daniel, dès l'instant où tu as commencé à prier, la réponse a été donnée. Mais le chef des Perses a résisté. Est-ce que lui voyait le chef des Perses? Lui simplement peut-être pouvait se plaindre à Nzambe. Tu ne sais pas que tout se passe dans le monde spirituel. Quelqu'un amène ses idées ailleurs, ne lui donne pas. Il y a quelquefois des réponses qui ne sont plus au trône, qui sont ailleurs. 1 Samuel chapitre 17, verset 43, alors que Goliath se présente devant David, autant il avait la force physique. La Bible dit Goliath, avant de s'avancer, il maudit David par ses dieux. Il savait qu'il y aurait corps à corps, hein, l'aspect physique, mais avant l'aspect physique, il y a l'aspect spirituel. Peut-être même qu'il a répété des choses de sa magie. Il croyait en la force physique, mais avant la force physique, il a utilisé des armes spirituelles. Luc chapitre 10, verset 17 à 18. Les disciples rentrent. Jésus-Christ les avait envoyés en mission. Et ils sont rentrés, ils ont vu de grandes victoires sur le terrain. Mais ils ne voyaient pas un autre aspect. Laurent, tu peux nous lire ça?
Luc chapitre 10, verset 17 à 18. Verset 17. Les 72 revinrent tout joyeux, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Verset 18, il leur répondit, « Je voyais Satan tomber comme un éclair du ciel. »
Est-ce qu'ils voyaient ça? Ils voyaient simplement des résultats sur le terrain, mais ils ne voyaient pas l'aspect invisible, mais qui était moins présent. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous réclamez des choses en mon nom, « Je voyais Satan tomber du ciel. » Comme un éclair. Une troisième des choses, je l'avais dit durant ces plusieurs semaines d'enseignement, qu'il était important d'être équilibré. Certains sont trop spirituels, pour ne pas dire spiritualistes, et voient des esprits partout. Mais d'autres encore sont aussi tellement cartésiens qu'ils ne veulent croire qu'aux choses palpables et réelles. Il est important d'être équilibré, surtout d'avoir les discernements. Et ce passage que nous avons lu sur Pierre nous apprend trois choses sur lesquelles nous allons nous assujettir, mais j'aimerais d'abord revenir sur ce qui est essentiel. On n'en parle pas souvent, ou bien on en parle, mais on ne fait pas ressortir cela. En lisant les comportements de Pierre, du chapitre du verset 54 au verset 62, on est étonné, on a tendance à dire, est-ce la même personne? Pierre, comme l'avons étudié, c'était un homme fort de caractère, c'était un fonceur, c'était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Combien de fois n'est-il pas arrivé alors que les autres avaient peur, lui, il a foncé. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il a même marché sur l'eau. Et quand il disait, quand tous t'abandonneront, moi je ne t'abandonnerai pas, il était réellement sincère. Et la première des choses que ces deux passages nous enseignent, c'est que ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il n'y a rien. Et cela est sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il n'y a rien. Christ dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froments. Tu marches comme si de rien n'était, mais tu n'es pas au courant que dans le monde spirituel, il y a un plan, il y a un projet, il y a eu réunion, il y a eu but à atteindre et fixer, il y a eu méthodologie pour les faire. Satan t'a réclamé pour te cribler comme les froments. Combien de choses échappent à notre vue, échappent à nos oreilles. Mais c'est une réalité. Dans Genèse chapitre 37, versets 18 à 20, Joseph s'avance vers ses frères. Il n'entend pas ce qui s'est dit. La Bible dit alors qu'il s'avançait, ses frères complotèrent pour les faire mourir. Ils se dirent les uns aux autres, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant et tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous, quand nous lisons ça, nous avons tendance à croire que Joseph entendait cela nullement. Il est au loin, on l'a vu, peut-être à 20, 30, 50 mètres, et ils se disent des choses. Ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu qu'il n'y a rien du tout. Tu n'as aucune idée hier quelle réunion il y a eu quelque part. Et même cette nuit, peut-être même demain, une réunion est programmée avec un but, il faut l'éliminer. Tu n'as aucune idée des gens qui t'épient, qui connaissent tes moindres faits et gestes. Mais c'est quoi Abimi? C'est quoi? Toi, tu as l'impression que tu rencontres des personnes normales. Mais tu ne sais pas que chacun te prend en charge. Quelqu'un d'autre, c'est de l'église au niveau de 24. Quand tu arrives au 24, Lima 2, Corbeau est arrivé. Et on te prend en charge. Tu n'as aucune idée. Tu verras même quelqu'un dire, bonjour, pasteur Ken. Quand tu prends, allez. Ah, j'ai connu un papa qui il était dans le Seigneur. Un jour, il est venu confesser devant le pasteur. Il dit, vous me voyez à l'église, j'ai même des responsabilités. Mais je suis agent de service. Il nous a montré des petites choses. Et là, j'ai compris. J'ai dit, aïe. Il nous a donné un principe. Il dit, Roland, il y a des gens qui aiment trop parler. Il nous a appris tellement de techniques de ces domaines. Il dit, dans ces domaines-là, quelquefois, les techniques, une des techniques qu'ils ont, c'est semer les faux pour récolter les vrais. Il provoque une conversation. Il y a l'oublié, l'eau comme avait. Vous voyez, pasteur, quel mot il y a Moulouba. Non, quand il y a Moulouba, toi, tu donnes les bonnes informations. Il sème les faux pour récolter les vrais. Au bureau, on a donné mon coussin à pembe. Tu donnes les vrais détails. Il nous montre ce jour-là, il avait un stylo. Et avec ce stylo, j'enregistre tout. Yobi Loba Loba. Il nous a relaté même par rapport à la gestion du pays comment certaines choses se passent. Il y a des gens qui n'ont que le but que d'aller simplement recueillir les informations, savoir ce que le peuple pense. Donc on a bien cela va provoquer ma gamme. Kimbuta falongwa. Moke baby. Allez-vous vous commencez à parler. Ah, Kimbuta tatal babulu. Et il ira dire, voilà ce que le peuple pense. Mais d'autres, non seulement ils provoquent, mais ils peuvent juste. Hein. Ils peuvent même venir chez toi au bureau, pasteur Ken, en tout cas. Parlez-moi, ça est le côté. Il faut sembler là-bas, kakébete la bouchabe. Allez, toi, sans discernement, allez. D'ailleurs, on a l'ingé traité. Ah, il nous dira un endroit aussi grand, là, il parlait de la borne, il dit que vous le voulez ou non, comme autant de gens viennent, à cause du travail que vous faites, vous influencez l'opinion des gens. Et vous ne pouvez qu'être infiltré. Peut-être même qu'il y en a un ce soir. Écris avec nous, Alléluia, butza al Roland Lobadimini. C'est pour cela, vous qui montez ici, faites attention. Vous ne savez pas qui est qui. Juges chapitre 16, verset 5. Et le prophète Joël Francis en a parlé longuement et très bien. Le prince des Philistins rencontre Delila. Delila, nous allons te donner autant d'argent pour que tu fasses ceci, pour que nous fassions cela. Nous allons te donner chacun un montant consistant. Alors que Samson est en train de se reposer quelque part, il ne sait pas que tout un complot est monté contre sa personne. Laurent, tu vas nous lire Matthieu 26, versets 1 à 5.
Matthieu chapitre 26, versets 1 à 5. Verset 1. Quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, verset 2, « Vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans 2 jours. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour eux, pour être crucifié. » Verset 3, « À cette même heure, les chefs de prêtres et les anciens du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre, Caïphe. » Et 4, « Et ils prirent en commun la décision de s'emparer de Jésus par ruse, pour le faire mourir. » Verset 5. Il ne faut en tout cas rien faire pendant la fête, disait-il, sinon nous risquons de provoquer un soulèvement parmi le peuple.
Jésus et ses disciples sont à quelques lieux, mais à quelques autres lieux, des gens se réunissent. Ils avaient envoyé des cartes d'invitation. Ordre du jour, étudier comment éliminer cet homme. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent. Réunion importante, on a 10 heures pour s'engager. Commis ordre du jour, il se fait couvre. Ils se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Disciples, vous pensez que tout est normal? Tout n'est pas si normal que ça. Acte 9, versets 23 à 25, je vais lire. Et Laurent lira acte 23, 12 à 15. Acte 9, 23 à 25. Acte 23, 12 à 15. Je vais lire la première portion. Saul vient à peine de se convertir. Il devient cet homme qui veut servir Dieu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour les tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul, heureusement. Et ont gardé les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille dans une corbeille. J'aurais bien aimé voir cette scène. L'homme qui va bouleverser le monde, il est sauvé par des méthodes bizarres. Corbeille, bache nakatia panier, révérend Paul. Sans cela, il n'aura pas le ministère qu'il a eu. Pourquoi il y a eu complot? Ils délibérèrent, nous allons les tuer. Et la Bible dit, on gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Seigneur, aide-moi à prendre conscience que je suis personne non grata. 23, 12 à 15.
Actes des Apôtres, chapitre 23, versets 12 à 15. Verset 12. Le lendemain, au petit jour, les Juifs se réunirent pour comploter contre sa vie. Ils jurèrent de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul et ils demandèrent à Dieu de les donner s'ils manquaient à leur serment. Verset 13, plus de 40 hommes participaient à cette conjuration.
40, tu n'as aucune idée du nombre qui s'est réuni. 40, c'est un jeune depuis quelque temps. Vous n'avez aucune idée des gens qui sont prêts à aller jusqu'à n'importe quel niveau pour vous détruire.
Verset 14, ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les responsables du peuple et leur déclarèrent. Nous nous sommes engagés par serment solennel, au point de vouloir être damnés si nous mangeons ou buvons quoi que ce soit avant d'avoir tué Paul.
Wow.
15, à vous d'agir maintenant. Il vous suffira d'intervenir.
Prépare même un scénario.
Il vous suffira d'intervenir auprès du commandant au nom du grand conseil pour lui proposer de faire comparaître Paul pour une seconde audience. Vous n'avez qu'à dire que vous voulez instruire son cas de plus près. De notre côté, nous avons pris nos dispositions pour les supprimer avant qu'il n'arrive ici.
Wow. Tout est organisé même dans les moindres détails. Complot. Et le mot complot signifie un projet, mais un projet organisé. Le mot complot signifie deuxièmement un projet organisé, mais secret. On ne fait pas la publicité. Non, l'obito canit roubama pasteur ken. C'est garder secret. Parce que l'efficacité du, entre guillemets, est liée à l'effet de la surprise. On n'en parle pas. On n'en fait pas mention. Mais qui parle des complots dit aussi, plusieurs personnes sont participantes. Avec répartition de rôles et de tâches. Quatrièmement, le but est toujours de faire mal. Mais nous, nous parlons d'un complot, mais un complot sur le plan spirituel. C'est pas physique. Je prie que les hommes de Dieu, nous qui sommes ici, ayons conscience que le diable ne nous aime pas et qu'il travaille et qu'il travaillera encore pour nous faire mal, pour nous écraser. Il mettra toutes sortes de moyens pour cela. Simon, Simon, le diable t'a réclamé. Les temps me manqueraient. C'est vrai, le diable n'est pas toujours, au travers de ses démons, les sources d'informations. Combien de fois n'ai-je pas été acteur dans des cas de délivrance et tu attends ces démons que tu tortures, qui habitaient des maisons comme des locataires dans lesquels ils se sentaient bien et à cause de toi, ils sont devenus des sans-domicile fixe. Nabimi, nabimi. Combien de fois n'ai-je pas entendu parce qu'à cause de moi, les domiciles qu'ils occupaient, ils n'occupent plus. Vous pensez qu'ils nous acclament? Je me souviens d'une jeune fille qui était colombe dans la Rose-Croix. Son père l'a entraînée. Colombe, c'est un peu comme des servantes dans les cérémonies de la Rose-Croix. En général, on prend des jeunes filles vierges. Elle est sortie de ces choses. Une fois qu'on priait, cet esprit a parlé, dit Roland, nous t'aurons. Du reste, nous t'enverrons des gens déjà à partir de cette semaine. Et cette semaine-là, je commençais à rêver des nains qui rentraient dans ma chambre et qui commençaient à se battre avec moi. La vie spirituelle, c'est terrible. Hein? J'en ai parlé une fois ici. J'ai tenu un séminaire, je pense que c'était en 91. Durant 5 jours, c'était fort. Et chaque jour, il y avait des délivrances fortes. À l'époque, j'habitais la parcelle de la Borne. Nous avions un petit studio. Nous dormions, pasteur Kali et moi. Et je reviens le soir, je finis de prendre mon petit repas. J'avais juste pris du thé, je dors. Je finis de prier, je dors à peine. Je dors, je vois deux créatures. Une qui reste derrière la fenêtre et une autre qui commence à m'étrangler. Et chaque fois, je disais au nom de Jésus, elle revenait, retournait à la fenêtre. De quasiment 23h30 ou 0h jusqu'à 4h, je devais dire au nom de Jésus. À un moment, la voix avait baissé. N'a gagné tellement au nom de Jésus. Mais je me souviens, moi, 10, 4, 10, 11 fois, Ngabou n'est pas démon, bon, au calibre, au zomonaïté. Parce que lui, il dormait paisiblement. Et j'ai compris, lui, il n'avait rien fait. Ngande Mounorimeko Benganamango. Car il dormait calmement. Il nous réclame. Il nous réclame. Mon épouse était encore enceinte de notre première fille. Je pense que c'était encore de 1 mois et demi. Et on en avait peut-être parlé à presque à personne, si ce n'est à nos parents. Et j'ai fait un cas de délivrance. Et subitement, je demande au Roland, yo, il y a beau maman à côté de moi. Maman, c'est nous depuis 1 mois en dame. Je me suis dit, la délivrance finie à l'époque, on n'avait pas de téléphone comme aujourd'hui. J'arrive, Viviane, vous savez bien. Pourquoi qu'il est au côté? Ça existe réellement. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien qu'il n'y a rien aussi. Deuxième des choses que ce texte nous apprend, c'est que les plans et les projets de l'ennemi ne sont pas irréversibles, ne sont pas définitifs. Ils peuvent être arrêtés. Ils peuvent même être avortés. Ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être avortés. Ils peuvent être arrêtés et avortés inconsciemment, mais ils peuvent aussi être avortés et arrêtés consciemment. Quand je dis inconsciemment, ça dit sans que même nous soyons conscients que des choses ont été faites, que des batailles que Dieu remporte pour nous au travers des anges sans que nous les sachions. Et là, l'élément primordial, c'est notre qualité de vie. C'est la qualité de vie qui peut faire que les projets de l'ennemi avortent, échouent, sans que même nous les sachions. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre de tout danger. Il campe, mais il campe à côté de qui? De ceux qui les craignent, de ceux qui ont une qualité de vie. Et il les délivre de tout danger, inconsciemment. Mais ils peuvent avorter aussi consciemment. Et quand je dis consciemment, nous sommes au courant. Et pour que les projets de l'ennemi puissent être avortés, ne pas atteindre leur objectif, nous devons en être informés. Et nous qui sommes enfants de Dieu, intimes avec le Saint-Esprit, nous pouvons être informés de plusieurs manières. Dieu peut nous parler par des visions. Dieu peut par un dépôt de l'esprit, une conviction. Dieu peut par des circonstances t'arrêter d'aller à un endroit. Dans 1 Samuel chapitre 19, versets 1 à 3, Laurent va lire ça. Verset 1 à 3, là nous voyons David averti d'un mal qu'on voulait lui faire, mais par des voies humaines. Mais nous lirons aussi, et ça c'est moi qui vais lire, 1 Samuel chapitre 23, 9 à 4, là David est averti, mais par des voies spirituelles. Laurent, vas-y, 1 19,
1 Samuel, 1 à 3. Chapitre 19, verset 1 à 3. Saül parla à Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Or, Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Jonathan informa David en disant, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Maintenant donc, sois sur tes gardes, je te prie. Demain matin, tu te tiendras à l'écart et tu te cacheras. » Verset 3. « Moi, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans la campagne où tu seras. » Je parlerai de toi à mon père, et si je vois quelque chose, je te le ferai savoir.
Voilà. Informé. L'on en informe, il lui dit, Saül, mon père cherche à te faire mourir. Et il prend des précautions. 1 Samuel 23, verset 9 à 14. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Écoutez sa prière. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne les révéler à ton serviteur Sagem. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils moi et mes gens? Entre les mains de Saül, et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David s'éleva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Est-ce qu'ils sont restés? Nzambe, en tout cas, l'ange de l'Éternel campe autour de ce qu'il n'a aucun été. Il est parti. Saül informait que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Et David demeura au désert dans des lieux forts. Et il resta sur la montagne du désert des Ziph. Saül les cherchait toujours, mais Dieu ne les livra pas entre ses mains. Je ne sais pas si j'ai relaté cette histoire ici. Les jeunes années de ma foi, un jour, je finissais un moment de prêchement, j'avais 2 ou 3 jours de jeûne. Et à un moment, on est venu me dire, on te demande d'aller à un endroit. Et quand je voulais y aller, j'ai entendu dans mon cœur, directement à un dépôt du Saint-Esprit, là où tu vas, ne bois rien parce qu'on t'en veut. Je connaissais ces gens, je disais, peuvent m'en vouloir jusqu'à quel point. Et je suis arrivé, j'ai toujours souvenir, je me suis assis, on a placé un tabouret, cette partie était un peu plus mince, et on a placé, et puis subitement je vois, on amène un verre, j'aurais voulu dire, Narumé Laté, mais j'avais difficile, j'ai dit, ah, bah toi, Sony. Et puis on a placé le verre, on a placé les jus. À peine, on m'a dit, à votre soif, un chat, leur chat est venu, et passé là, touché là, et les verres et les jus sont tombés. On est venu, on a dit, oh, niaou, pélisou, soubri. On vient, on repasse. La deuxième fois, j'ai dit, pour mon Zambi. Mais la deuxième fois, les chats reviennent, paf, ça tombe. Je me suis caché derrière une blague, mais ça m'a aidé à me sauver. J'ai dit à cet ami, mon Zambi, il n'a pas été mis la tête. Mais au fond de moi, j'ai dit, Ah, il y a des choses spirituelles réelles. Réelles. J'ai un jeune homme qui est venu me parler un jour à l'époque à la borne. Il me disait comment on l'avait envoyé, utilisé par des ennemis dans les affaires pour détruire quelqu'un d'autre. On connaissait ses habitudes, il allait souvent dans un bar. Et ils sont venus à deux. À deux, on a placé les verres. Et lui-même, il disait les poisons n'étaient pas dans les verres, les poisons étaient dans la serviette qu'on prend comme si on veut. Serviette de gauche, c'est les mauvais. Allez, ah, Toto l'on la poussière. Mais il dit, c'est passé qui s'est passé à un autre servant qui est venu sans le vouloir à changer le verre. Et lui, il n'a pas su parce que 10 minutes après, c'est l'autre qui a eu des malaises. Et il était étonné, il pensait que finalement, il apprendra après qu'on a eu à changer de verre. Dieu est un Dieu qui nous protège. Moi, j'ai appris à écouter Dieu désormais. Quand il parle, j'obéis. Quand il dit des choses, je vais dans cette direction. Laurent, lis-nous Néhémie chapitre 4, versets 10 à 15. Si vous voulez avoir la longévité dans la vie tout court et surtout dans le ministère, apprenez à être sensible à l'Esprit de Dieu. Apprenez quelquefois à obéir sans comprendre. Certaines fois, nous voulons tout ramener à la raison. Néhémie chapitre 4, versets 10 à 15. Dieu est un Dieu qui informe ses serviteurs, ou du moins permet qu'ils soient informés.
Néhémie chapitre 4, versets 10 à 15. Mais Judas disait, les forces manquent aux porteurs, et il y a beaucoup de décombres. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Verset 11. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront rien, ils ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les massacrerons et nous ferons cesser l'ouvrage.
Jamais à moins que tout ça soit dans un bête.
Verset 12. Or, quand venaient les Juifs qui habitaient parmi eux, ils nous avertirent 10 fois de partout qu'on allait venir contre nous. Verset 13. Alors je plaçais le peuple dans les endroits les plus bas, derrière la muraille, en des lieux abrités, en les disposant par famille, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Verset 14. Je fis l'inspection et je me mis à dire aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne craignez pas devant eux, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vous. Et quand nos ennemis apprirent que nous étions avertis et que Dieu avait anéanti leur projet, nous retournâmes à la muraille, chacun à son ouvrage.
Je déclare que nos ennemis apprendront que nous sommes au courant de leur projet. Et que leurs projets sont anéantis. Néhémie est en train de faire des choses, mais Dieu s'arrange. Chaque fois que Néhémie soit au courant. J'aime le verset 12. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. 10 fois complot, 10 fois nous apprenons. Je les déclare comme il avait été dit à David, l'ennemi ne nous surprendra pas. Il ne nous surprendra pas. Du reste, Dieu m'a donné un passage étrange et dangereux. Du reste, je laisserai ça à Joël, à la fin, il va nous conduire. Étrange et dangereux. Malheur à celui qui essaie de m'attaquer ce jour. Si tu es là, j'aimerais te dire, Nazo, que l'homme a déjà. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, et puis versets 19 à 23. Notre Dieu est un Dieu qui ne laisse jamais ses enfants être surpris. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'ils furent partis, c'était les mages. Voici un ange du Seigneur apparu en songe. Dites avec moi en songe. Ah, c'est pourquoi j'aimerais vous dire, ne minimisez pas les songes. Ne minimisez pas. Moi, quand je rêve, quand c'est un rêve et un message de Dieu, j'arrive pas à l'expliquer. Avec les années, je sais. Bando tope a pamba pamba na yebi. Bizarre. Donc, au milieu de Philadelphie, au quartier de la science, beaucoup mis directement dans la tour Eiffel. Il apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère, fuis en Égypte. Dites avec moi, fuis en Égypte. Et chaque fois que j'enseigne cela, j'aime souvent dire, est-ce que Dieu n'est pas fort? Est-ce que Dieu n'a pas la capacité de contenir Hérode et ses armées? Mais Dieu dit à Joseph, fais quoi? Fouille. Dis à ton voisin, quelquefois il faut fouiller. Le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu capable, il dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère et fais quoi? Fouille. Utilise tes jambes pour t'éloigner. Fouille en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera les petits enfants pour les faire périr. C'est Dieu qui en parle. Joseph se leva, prit des nuits, les petits enfants et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe encore. Joseph n'a pas appris par les médias. Les infos de RFI de 7h30. Non. Dieu lui a parlé. Il a su. Et il dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère et va dans les pays d'Israël, car ceux qui ont voulu à la vie du petit enfant sont morts. Information. Joseph se leva, prit les petits enfants et sa mère et alla dans les pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélus régnait sur la Juda à la place d'Hérode son père, il craignait de s'y rendre et divinement averti, en songe encore. Il se retira dans les territoires de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Je prie que non seulement que Dieu nous rende sensibles pour que nous puissions reconnaître ce qu'il nous dit dans les songes, mais je prie même quand ça sera en symbole, que nous puissions décoder les symboles. Parce que quelquefois Dieu parle de manière symbolique. J'aime quand Joseph peut se lever, il peut reconnaître derrière les paniers qu'il y a sur la tête et les oiseaux qui viennent picoter, il peut reconnaître la mort. De prime abord, on a difficile à les voir. Que Dieu nous aide à décoder des choses. Que Dieu nous aide à comprendre des choses. C'est important. Combien de fois nous passons à côté, nous ratons des choses. J'ai en mémoire, je devais prêcher un dimanche à la banque. Je devais prêcher sur le combat spirituel. Et je me suis préparé durant 3 jours. La veille samedi, j'ai prié de 21h jusqu'à 0h. J'ai vu distinctement. Le culte avait commencé, on était en train d'adorer. Le système, c'est toujours les 15 premiers louanges, adoration et puis prière d'ouverture. J'ai vu juste en face, première, deuxième, troisième, quelqu'un vêtu de rouge, chaussures rouges, chaussettes rouges, pantalon rouge, chemise rouge, veste rouge. Et Dieu m'a dit, c'est un sataniste. Il dit, portera une paire de lunettes et puis il enlèvera une autre avec des trucs rouges aussi. Et je me souviens quand je suis venu, jusqu'au l'écoute voulait monter, j'ai regardé, il n'était pas là. J'ai dit, oulala, c'est que ce n'était qu'un rêve. Et on commence à louer, à pleurer. Je vois quelqu'un qui vient. Et le protocole vient demander à un ancien, est-ce que tu ne peux pas laisser la place à telle personne? Je vois la personne. J'aurais pas été averti, j'aurais cru que c'est quelqu'un qui aime les rouges. Mais parce que j'étais averti, j'ai commencé à les regarder dans les yeux. Et on se regardait les yeux dans les yeux. J'ai pris au fond de moi, on a comment le raison? Yamba yango! Et il n'a pas traîné, pas 5 minutes, il s'est levé, il est parti. Les gens n'ont pas su, mais un combat spirituel a eu lieu et une victoire. Simplement parce que j'étais averti. Si je n'étais pas averti, oh, tato à lati, hein? On appelle ça pour tout nous payer, Nasuka. Averti. Et Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Il a parlé à Joseph. Voilà ce qui va se passer. Acte 20, verset 22 à 23. Je prie que Dieu place sur notre route des gens qui, comme Christ, peuvent nous parler des projets de l'ennemi contre notre vie. Pierre, on t'a réclamé. Pierre, on t'a réclamé. Pierre, tu as été réclamé dans le monde des ténèbres. Mais voilà ce qui va se passer. Acte 20, verset 22 à 23. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais j'aime la suite. Seulement de ville en ville, l'Esprit m'avertit. Dites avec moi, l'Esprit m'avertit. Nous avons un Esprit qui avertit. Avertir, c'est quoi? C'est donner des informations qui nous aide à changer notre comportement pour éviter des choses. Quand tu es en train de venir, avertissement 5600 volts, ça veut dire, ne marche pas comme tu marchais avant. Cette information t'oblige à ajuster des choses. L'Esprit m'avertit que des villes en ville, des liens et des tribulations m'attendent. Il me donne des informations. L'Esprit de Dieu avertit, l'Esprit de Dieu parle. Ah, j'aimerais lire ce merveilleux passage de Job 33. Un passage que je ne me lasse pas de lire. Cette semaine, je pense l'avoir lu 2 ou 3 fois. J'ai essayé de le lire dans plusieurs versions. Job 33, 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Et ça, c'est le triste. Il y a eu un émetteur qui a émis des informations, mais les récepteurs ne reçoivent pas. Et écoutez ce que la Bible dit au verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Dieu parle. C'est pour ça que je prie, même quand ça sera un symbole que vous comprenez. Je ne sais pas si j'en ai parlé ici. On se retrouve, mon épouse et moi, en 97, on est à Nairobi. Durant un certain moment, les ponts et les contacts sont coupés avec l'église de la Baonne, qui nous donnait une bourse qui nous permettait de tenir 3 mois. Et là, durant plus de 6 mois, on ne recevait pas de bourse. Tout ce qu'on avait était parti. Incompréhension, des gens apportaient certaines informations et il y a eu une certaine attitude de ce côté. Et je me souviens, j'ai dit à mon épouse, je vais prendre 3 jours. Je veux que ces incompréhensions partent. Nous n'avons pas de revenus, nous rentrons à l'auditoire le matin à 7h et nous sortons à 19h, sans compter les travaux en bibliothèque. Et j'ai fini de prier le troisième jour. J'étais dans notre chapelle, je m'assoupis durant quelques 10 minutes. J'ai fait un songe. À l'époque, je n'étais jamais allé en Afrique du Sud. Je n'avais même pas encore vu le palais présidentiel de l'ère deuxième grande, Pretoria. J'avais ni vu dans un documentaire, ni à la télé, je n'ai pas encore allé. Mais j'ai vu dans les songes. En 97, la première fois quand j'irai en 99, quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai dit, mais on dirait que j'ai déjà été. Mais je n'ai jamais été physiquement, c'était en songe, en esprit. Je ne comprends pas pourquoi le prophète pouvait dire, Dieu me transporte en esprit. J'ai vu les palais présidentiels. J'ai été reçu par Nelson Mandela. Et quand nous avons fini de parler, il m'a remis un chèque de 3 000 $. Il dit, Roland, pardonne-nous pour ces incompréhensions. Prends ces 3 000 $ et dans quelques semaines, nous t'enverrons autre chose. J'ai vu le palais présidentiel, j'ai vu Mandela, mais dès que je me suis levé, je suis allé dire à mon épouse, et à la fin, il dira, c'est dans 3 jours que tu auras ça. J'ai dit à mon épouse, dans 3 jours, le pasteur Verneau va nous appeler et il nous donnera un chèque de 3 000 $. Il dit, mais toi, tu es arrivé de Mandela. J'ai dit, je ne sais pas l'expliquer. J'ai su que c'est une autorité. J'arrive pas à l'expliquer. J'ai dit, c'est ça. 3 jours après, quand nous étions en Nairobi, il y avait, comment on appelle ça en anglais, call box, une cabine téléphonique. Il y en avait deux, il y en avait un petit et puis un grand. Quand ça sonnait là, on savait que c'était des appels locaux, donc des gens qui appelaient des Nakuru, des Mombasa. Mais quand c'était l'autre, les grands, on savait que c'était des appels pour les étudiants internationaux. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce jour-là, j'ai dit, j'aurai mon appel aujourd'hui. Ouais. J'aime souvent dire, dans le monde de l'esprit, il y a des moments où on sait. On ne sait pas comment on sait, mais on sait. Je ne sais pas comment je sais. Je ne sais même pas l'expliquer, mais je sais. Je sais que ma saison est arrivée. Comment tu le sais, je ne sais pas, mais je sais. Je sais que bientôt, je vais me marier. Comment tu le sais, je ne sais pas, mais je sais. Un savoir. Et dès que ça a sonné de l'autre côté, j'ai dit, ça c'est pour nous. Un étudiant éthiopien est allé à peine, il a pris ses retours. D'allô! Les uns ont dit, mais toi, tu es sorcier. Et dès que je suis allé, il est fait notre pasteur. D'allô, excusez-nous pour toutes ces incompréhensions. Nous avons envoyé un chèque. Est-ce que tu peux aller demain à tel hôtel? On te donnera non pas 2 999, non pas 3 001 $, 3 000 exactement. Comme Nelson Mandela m'avait donné dans les rêves. Et puis je voudrais te dire, dans quelques semaines, on va t'envoyer quelque chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent on y prend point garde. Alors, il y a des secrets d'État que je n'aime pas donner, mais j'en donne quelques-uns. Pasteur Atom, c'est Ken Sav. Je pense juillet, pas de l'année passée, l'année d'avant. Je rentre d'un voyage, je pense que c'était le séminaire sur la louange et l'adoration. Chaque fois qu'on m'appelait, on me donnait des échos très favorables. Ah, ça a été fantastique, ça a été glorieux. Même l'avant-midi, les gens venaient, fantastique. Il y avait presque de l'excitation chaque fois qu'on m'a donné de ces nouvelles. Et les derniers jours du séminaire, je m'étais dit, dès qu'ils vont commencer ici, moi je serai à genoux en train de prier. Bon, j'aime pas trop parler de ce que j'ai fait. Et alors que j'étais à genoux en train de prier, j'ai vu en vision clairement, j'ai vu d'abord un grand champ de blé. J'ai vu un gros, une sorte de gros, très gros oiseau, comme une autruche, mais ils n'ont pas un bec, mais ayant comme le père des ciseaux. Et il commença à couper ses blés. Et en ricanant, rigolant fort. Et je voyais comment tous ses blés tombaient. Et puis j'ai vu une deuxième image, j'ai vu un œuf, mais comme un ballon de football. Et puis on donnait un marteau à quelqu'un en disant, si tu ne casses pas cet œuf, il deviendra ce très grand oiseau que tu as vu qui fera des dégâts. Simplement les langages de l'esprit. Il y a des choses à détruire quand elles sont petites. Si vous les laissez grandir, elles atteindront une certaine dimension. Dès que je suis rentré, j'en ai parlé à mes collaborateurs, on a prié, je pense que c'est resté entre nous. Et moi-même plus tard, j'ai décrété un moment, un long moment de jeûne.
Et que des menaces qui ont suivi l'église à ce moment-là. Et même encore cette année, j'aime pas trop donner des secrets. Il y a des fois des luttes que nous connaissons en coulisses et vous n'êtes pas au courant. Mon anniversaire, c'était le 6 mars, ça tombait un dimanche. J'ai terminé de prier ma prière de chaque soir de 22h à 0h. Les 4, j'ai dit à mon épouse, je commence une retraite le dimanche. Je vais rien manger jusqu'à samedi. Jeûne à sec pour l'église. Je l'ai même un peu fâché, mais Roland, les filles ont prévu même un gâteau. J'ai dit, le congélateur est fait pour garder des gâteaux. Ah, les leaders ont un grand prix à payer. Et j'ai commencé un jeûne. Dimanche matin, j'ai prié jusqu'à vendredi. Vendredi, très tard le soir. Je pense que Pasteur Ken ainsi que l'administrateur m'ont envoyé un mot. Voilà l'information que nous venons de recueillir. On viendra fermer Philadelphie mercredi. Que c'était top secret dans un certain coin. Et qu'on aurait même appelé des journalistes Lingala facile. Ça sera dans le cadre de, comment on appelle ça, tolérance. Un mercredi comme c'est l'histoire. Alléluia, le con. Et à la télé. Et tout qui ne chasse à voir ça. Chadari n'est pas Kamouni à Kalizongi. Ah, je me souviens, nous sommes appelés avec le pasteur Ken et nous avons récuré à l'un des frères de l'église. Est-ce que tu peux vérifier l'information? 30 minutes après, il nous a dit exact. On projet de le faire le mercredi. Si j'étais resté à manger les hamburgers, Ntinga, Nexeter. Et en 2-3 jours, le projet a été avorté. Vous êtes venu mercredi et même dimanche comme si de rien n'était. Vous ne saviez pas que les gens étaient en train de lutter. Mais pourquoi? Parce que nous avons, et je peux vous dire la manière dont cette information nous est arrivée, c'est un miracle. Un miracle. Je n'aimerais pas trop donner de détails ici pour que la personne ne soit pas exposée. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Et qui a capté l'information et qui nous a fait parvenir. Avec les reculs, on s'est dit, elle ne serait pas passée là. C'est pour cela que nous disons, c'est pas parce que rien, vous n'entendez rien, que rien ne se passe. Donc nous étions calmes, mais les documents étaient en train de signer. Mais Bokende, Bambola, Bamboko, Bambola. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions. Donc, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Écoutez ce que le verset 16 dit. Alors, il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Et j'aimerais même aller plus loin en disant, faites attention aux songes et aux visions qui se répètent. Joseph, c'est Joseph qui en parle. Il dit, quand tu as vu la chose revenir deux fois, faites attention quand vous voyez des choses revenir. Et troisième chose que ce texte nous apprend, c'est par là que je vais chuter, nous allons prier pour tout à l'heure, c'est que les plans et les projets de l'ennemi ont toujours un but. Les plans et les projets de l'ennemi ont toujours un but. Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, pour te réduire à néant, faire passer ce qui est un grain, quelque chose de dur en quelque chose de poudre, en poudre. Mais il ajoute encore, que ta foi ne défaille point, pour dire c'est sa foi qui était visée. C'est sa relation avec Dieu, c'est sa qualité de l'attachement avec Dieu. Quand le diable vous voit faire des choses, n'avez-vous aucune idée jusqu'où il est jaloux de vous. Quand ils ont voulu attaquer Joseph, ils ont dit, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Tuons-les et nous verrons ce que deviendront ces songes. Au-delà de lui, ce sont ces songes qui était visé. Quand ils ont voulu attaquer Paul, c'est de l'empêcher de devenir cet homme que Dieu a voulu qu'il devienne. Déjà, à peine il vient de se convertir et on veut l'attaquer. Quand Hérode a voulu faire tuer Christ avant, derrière c'était la main du diable et d'empêcher que l'œuvre de rédemption puisse avoir lieu. Et parmi les méthodes que le diable utilise lorsqu'il attaque les enfants de Dieu, surtout les serviteurs, il y en a deux, Joël, Francis et même Atom, ça en ont beaucoup parlé. Je veux juste les épingler et puis nous allons prier. C'est premièrement l'envoûtement et deuxièmement l'enchantement. L'envoûtement et l'enchantement. Envoûter quelqu'un, c'est prendre de l'enchantement ou le contrôle de la volonté, des émotions, des sentiments ou de l'esprit d'une personne. J'aimerais répéter, prendre de l'ascendant ou le contrôle de la volonté, des émotions, des sentiments ou de l'esprit d'une personne. Et cela à distance. L'envoûtement, ce n'est pas quelque chose qui se fait de près. Ça se fait à distance. Les vaudous utilisent l'envoûtement. Et en général, dans l'envoûtement, il y a toujours l'utilisation de quelque chose. L'utilisation soit d'une figurine, où on fait une petite sorte de statue, on dit ça c'est Joël, ça c'est Roland, ça c'est Laurent, ou alors une représentation symbolique dans l'envoûtement. Et deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à l'envoûtement, quand il y a envoûtement, il y a contrôle de nos actions par un effet spirituel. C'est-à-dire il y a d'un côté quelqu'un qui agit sans savoir que ses actions sont dictées. Et de l'autre côté, quelqu'un qui fait agir. Ça, c'est l'envoûtement. Deuxième technique, c'est l'enchantement. Dans l'enchantement, c'est le fait d'agir sur une personne au moyen d'opérations magiques. Le fait d'agir sur une personne au moyen d'opérations magiques. De telle sorte que la personne perd l'essence de sa personnalité ou le contrôle de sa volonté. Le fait d'agir sur une personne au moyen d'une opération magique, de telle sorte que la personne perde l'essence de sa personnalité ou le contrôle de sa volonté. Et le terme enchantement est souvent utilisé en Inde et en Orient, où vous voyez quelqu'un avec une flûte faire danser un serpent. Vous avez quelquefois vu ça à la télé. Contrôler un animal par la musique, autant dans l'envoûtement peut se faire à distance, mais l'enchantement demande toujours une proximité. Dans l'enchantement, il y a une proximité. L'enchantement, c'est aussi l'effet d'exercer sur une personne une action surnaturelle, de telle sorte que celle-ci perd ses propres vertus et valeurs. Et j'aimerais dire peut-être deux autres choses concernant l'envoûtement et l'enchantement. La première, c'est que contrairement à l'envoûtement, qui se fait à distance, l'enchantement a toujours besoin de la proximité, ça j'en ai parlé. La deuxième, c'est que si l'envoûtement contrôle la volonté et les actions, l'enchantement par contre, avant de changer les comportements, séduit, change la vue, change les jugements. Dans l'envoûtement, c'est directement les actions qui sont contrôlées, mais dans l'enchantement, la vue, les jugements sont changés. Apocalypse 18, verset 23, la Bible dit, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Ça entraîne la séduction. Apocalypse 18, verset 23. Et l'aspect typique de l'enchantement, c'est Genèse 3, verset 6. On parle du serpent qui était l'un des animaux les plus rusés. Mais quand il a fini de parler, écoutez ce que la Bible dit. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir à l'intelligence. À cause de l'effet exercé sur elle, un regard différent, considération différente. L'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et précieux pour ouvrir à l'intelligence. Autre chose que j'aimerais dire encore, c'est que et l'envoûtement et l'enchantement sont des phénomènes limités dans les temps. Elles ont un point de départ que l'on peut détecter. Et elles ont un temps où ça s'arrête. L'envoûtement et l'enchantement sont des phénomènes limités dans les temps. Laurent, lis-nous Jean chapitre 13, verset 27. Moi, je lirai Luc 22, 1 à 6.
Jean chapitre 13. Verset 27. Aussitôt après avoir reçu cette bouchée, Judas fut saisi par l'esprit du mal. Satan entra en lui et prit possession de son cœur. Alors Jésus lui dit, fais au plus vite ce que tu dois faire.
Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Luc chapitre 22, et ainsi c'est encore plus explicite. Avant cela, Judas était le voleur, il avait peut-être d'autres défauts. mais il n'avait pas un certain comportement. Écoutez ce que la Bible dit, la fête des Pâques sans levain appelée, la fête des Pâques sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de les leur livrer. Ils furent dans la joie, ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Subitement, son comportement change. Et ce qui me permet de revenir à notre texte, je disais au départ, on n'en parle pas beaucoup, mais nous n'avons aucune conscience que toute l'attitude de Pierre était un envoûtement. Regardez son comportement. C'est différent du Pierre que nous connaissons. Et tous les commentateurs qui ont étudié ce texte disent que ces scènes ont duré au moins 4 heures. Parce qu'à un moment même, il est dit une heure après. Un comportement différent de ce qu'il a toujours été. C'est plus l'homme fort. Il se met à nier, comme je me dis, l'homme qui était sous la montagne de la transfiguration. Il nie. L'homme qui a vu Lazare sortir du tombeau. Il dit, je ne les connais pas. Quelqu'un dit, même ta façon de parler, c'était pas physique. On l'avait réclamé. Et quand on l'avait réclamé, une action s'exerçait sur lui. Et comme je dis, c'est un envoûtement qui te vole ta volonté, qui te pousse à agir d'une certaine manière. Tu es contrôlé. Tu agis non pas comme tu veux, mais parce que quelqu'un te contrôle. Et Pierre se met à agir. Quelquefois, nous condamnons des personnes, mais nous ne savons pas ce qui est derrière. J'ai écouté un jour un homme de Dieu qui m'a dit, il quittait, c'est un ami avec qui on a évolué à Nairobi. Il dit, il quittait Nairobi, il était invité pour aller prêcher à Kampala. Il dit, Roland, je ne sais comment te le dire, mais j'arrive pas à expliquer. Il dit, je suis marié, à ce moment-là, j'étais marié depuis peut-être 4 ans. Fidèle à ma femme, et avant, je n'ai jamais trompé ma femme. Il dit, mais je me suis retrouvé voisin, là dans ce bus, plus de 8 heures de route, avec une jeune fille. Il dit, à un moment, il m'a simplement regardé, j'ai perdu tout contrôle. Tout contrôle. Il dit, nous avons commencé à avoir des conversations où je disais des choses, même je disais, mais ça, ce n'est pas moi. Il dit, je sentais que je ne devais pas dire ça, mais j'allais dans la même direction. Il me dit, quand ils sont arrivés le soir à Kampala, ils ont voulu se séparer. La jeune fille lui a dit, mais puisqu'on doit continuer pour aller, est-ce qu'on peut passer la nuit dans la même chambre? L'ami lui a dit, mais moi je suis marié. Il dit, je sais que tu vas venir. Et lui a laissé le numéro de téléphone. L'ami me dit, Roland, tu sais, je suis allé louer une autre chambre, mais vers 22h moi-même, je suis sorti. Il dit, j'avais l'impression que ce n'était pas moi. On dirait que j'étais un robot. Il dit, j'arrive au call box, je l'appelle. Dès qu'elle prend, il dit, c'est le pasteur. Il dit, vous savez que tu allais appeler. Il dit, alors maintenant, viens. Il dit, c'est quand il allait, il a rencontré un vieil ami. Il dit qu'il a commencé à lui dire, il a cité le texte de 1 Pierre, il dit, les chiens retournent à ses vomissures. Il dit, on ne doit pas retourner à un homme. Il dit, quand il parlait comme ça, il avait l'impression, bah, c'est comme s'il s'est réveillé. Et puis il a dit à cet ami, tu sais où j'allais? Voilà, 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 voilà. J'ai dit, certaines fois, nous condamnons des gens, mais nous ne savons pas ce qui se passe. Dans le monde spirituel, les gens se sont réunis. Ils ont envoyé des commandos et des commandos. Verrez quelqu'un agir d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux, mais nous n'avons aucune idée des choses qui se passent. Et Pierre était sous un envoûtement. Le diable était à réclamer. Le diable avait frappé un grand coup. Pierre s'est mis à nier. N'ayez biété. Et quand le Seigneur s'est retourné, l'a regardé, l'envoûtement est fini. La Bible dit, il est sorti, il a pleuré amèrement. Ah, quand le diable a une main mise, vous avez l'impression comme si vous êtes de vous-même. Un homme de Dieu vient me parler un jour, il dit, Roland, j'arrive pas à expliquer, prie pour moi. Il dit, cette nuit, j'ai failli violenter la petite sœur à ma femme. Il dit, pardonne-moi, ce n'est pas que je la minimise, mais elle n'est pas assez spéciale. Mais j'ai senti une attraction. J'ai failli même déchirer ses habits. Il dit, le lendemain, je suis allé trouver ce qu'on appelle des pentacles sous son lit, avec mon nom, faisant des prières. et j'ai tout compris. Alors, nous n'avons aucune idée des choses qui se passent dans le monde spirituel. J'en ai parlé une fois ici. J'ai connu un phénomène. Je pense 93, je venais à peine de me marier. J'ai parlé, je pense, une ou deux fois de cette histoire. Cette jeune fille qui vient me voir à la fin de la réunion, elle était très, très mignonne, 16-17 ans. Très attachée avec moi. Il y a Roland. Elle vient me voir à la fin de la réunion. Je venais de diriger le culte, je conduisais la louange et l'adoration. Et je la vois venant au loin avec un paquet de biscuits. À l'époque, j'aimais beaucoup les biscuits. J'ai dit, j'aime plus. Ou mieux, j'aime plus comme avant. Mais à peine elle est arrivée, je pense, à 10 ou 15 mètres, quelqu'un m'a happé, j'utilise le terme. Il m'a tiré de côté, s'est mis à me parler 2 heures du temps. Longue histoire, et j'ai vu comment Betty s'est fâchée, puis elle est partie. C'était un dimanche, le lendemain j'arrive au bureau à 9h, je vois la petite fille venir gonfler comme ça. Elle est dans le bureau, il y a Roland, Nazobé là-bas filet, sans discernement. Compassion plus que Jésus. Jésus guérit là des filets. Et le lendemain, mardi, il y avait un séminaire, c'était le feu pasteur Lukusa qui donnait les séminaires. Et les séminaires sur la sorcellerie. Un séminaire fort. Le premier jour, le feu pasteur Lukusa a prêché et dit, ceux qui sont dans la sorcellerie, avancent. Il dit, personne ne va fermer les yeux. Appelle à ciel ouvert. Une première personne, une deuxième personne, je vois Betty Azokine. J'étais assis quelque part là. Même quand je me suis levé, les gens ont dit, Roland Pazza, 12 malins. J'ai dû aller à côté de Betty, lui dire, alors, Betty, Balobi Bandoki. Elle m'a répondu en français, j'ai entendu. Yokasina, Nazata, c'est les confusions. Non, pour dire, Nazayango. Je suis allé m'asseoir, déboussolé. Mon oua, chantio, yakanzoura, Nazaka. Misalamabe. On les a amenés à un endroit, on leur a parlé. J'étais tellement troublé. Elle a même envoyé un message. Dites à Roland de ne pas partir. Quand elle est sortie, elle venait, je commençais à avoir peur de l'eau. On s'est assis. Quand elle s'est mise à me parler, ah, je me suis rendu compte d'une chose, nous avons un Dieu qui nous garde. Elle me dit, Roland, il y a une deux fois dans la bouteille, c'est qu'on a d'accord. Bah, une semaine, il dit, tu es au coup de moutoumoura, ya termina et peboy. Est-ce qu'on a mon arrêt, papa? L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et puis la deuxième fois, c'est il y a 3 jours, il dit, tu es au côté fleuve, moi, comme un maïen, ou est-ce que tu es au côté zate. Et puis il est allé plus loin, il me dira, la nuit du samedi à dimanche, je suis allé dans notre réunion, et on m'a donné ce paquet de biscuits. Souffrez que j'en parle. On m'a demandé, fais ça, entrer dans tes parties intimes. Et va donner à Roland. Dès qu'il va manger, il commencera à te poursuivre comme un chien. Arrange-toi pour que vous puissiez tomber à un endroit où on va vous attraper. Pour que le scandale soit grand. Moi, je voyais la petite qui venait avec des biscuits. Moi, on a gentil. Ordélie l'a envoyé par le monde des ténèbres. Mais comme je dis, Dieu peut nous garder, combattre pour nous sans nous. J'ai dit, alors qu'elle était à 10, 15 mètres, quelqu'un est venu, m'a pris. 2 heures du temps. Elle me dira, c'est parce qu'elle avait échoué dans la mission. Quand elle est allée la nuit, on l'a tabassée. Kobe, tu vas bêter qu'il y a un bouton à Vimbi. N'est-ce qu'il y a lundi, quand elle va filer. Nazo bond là, Jésus! Nazo, il va te filer, Rwana, et ça pourra avoir Kokinga ité. Ce qu'il y a Kokinga, il y a Makamoussous. Dis à ton voisin, Zamba, bate là. Et abattez la bien. Il s'est gardé ses enfants. Et Pierre, on ne le dit pas, mais il était envoûté. Il était plongé dans un état second. Mais je termine en disant ce soir, quel que soit l'envoûtement a ses limites. Nombre chapitre 23, verset 3 dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. L'envoûtement aussi ne peut rien. Et là même, Dieu reconnaît que ça existe. Quand on dit l'enchantement ne peut rien, ça existe, mais ça n'a aucun effet sur nous. Ce soir, en terminant, Je dis ces quatre petites choses. La première, c'est qu'on peut être vacciné contre l'enchantement, ainsi que contre l'envoûtement, et empêcher ces pratiques de nous atteindre. 1 Jean 5, 18 dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et les malins ne le touchent pas. Et une certaine manière de se garder, c'est la discipline. J'ai souvent parlé avec des hommes de Dieu. Il y a des envoûtements qui ont des gens directs que nous voyons, mais nous n'avons aucune idée. Derrière les films, derrière les images pornographiques, il y a des esprits qui vous conditionnent. Vous rentrez dans ces sites, vous avez l'impression que vous avez simplement affaire à des images. Vous regardez un film, la plupart des gens qui sont producteurs de ces choses, ce sont des satanistes. Les esprits sont derrière. Et quelquefois, nous nous mettons dans des conditions où nous nous laissons envoûter par des choses que nous regardons. Ces images que nous regardons dans ces livres, on a l'impression que c'est simplement des feuilles de papier. Mais derrière ces feuilles de papier, il y a un contact. Ça rentre par les yeux, ça touche le subconscient et ça vous amène à agir d'une certaine manière. Qu'il y ait des gens qui ont détruit ministère, détruit crédibilité par un petit moment où ils ont ouvert des portes. Deuxième des choses, c'est que l'on peut détecter l'envoûtement ou l'enchantement dans la vie de quelqu'un que l'on connaît. Genèse 3, verset 11, Dieu a détecté directement que aïe, quelque chose a changé chez Adam et Ève. Qui t'a appris que tu es nu? Et qu'est-ce que tu as mangé? Jésus a su que Pierre était l'objet d'un envoûtement. Et Pierre même n'était pas au courant. Troisième des choses, c'est que l'envoûtement et l'enchantement peuvent être arrêtés une fois qu'elles ont été connues. Mais presque toujours, c'est une autre personne que la personne qui les subit. Christ dit, je priais pour toi. Et quatrièmement, je termine par là, on peut être informé d'avance de sa venue prochaine et imminente, exercer une activité contraire. J'ai une dame qui est aux États-Unis, j'en ai parlé une fois ici, que Dieu a souvent utilisé pour me parler. En 2007, un jour, elle m'a appelé quasiment aux alentours de 1h du matin, je prends l'appel. On était un lundi, dit Roland, Dieu m'a dit, jeudi, une jeune fille viendra te voir, elle sera habillée comme ça, jupe bleue. Quelque chose de rouge. Elle s'appelle comme ça, elle n'est jamais venue te voir. Elle est envoyée par le monde des ténèbres pour te séduire. Et durant ce moment, j'étais presque en stand-by, je ne recevais pas. J'étais dans ma chambre, je vois la sentinelle, qui est plutôt la maman qui travaille chez nous, qui appelle, non, il y a une dame dehors. J'ai dit comment elle s'appelle. Elle m'a donné les noms, c'était le même nom. Je vais lui demander... On avait pris rendez-vous, il dit, boye banite batindi. J'ai renvoyé la maman à la tindengeni. Il dit, à la tiboye, boye, boye. Je commence à dire, nabimate. Tout était clair. J'aime quand Dieu parle. Et je me souviens, je suis sorti quand je me suis assis. Je commençais simplement à la regarder. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu es venu chercher? Je sais pourquoi tu es venu ici. Et tu ne feras rien du tout. Elle s'est mise à trembler. Elle s'est levée et elle est partie. Sans rien dire. J'aimerais que nous puissions lire Jérémie chapitre 18. Et j'invite le prophète Joël. Il va nous conduire durant un petit moment. Je ne sais pas comment, ce matin je priais sous la pluie. Dieu m'a dit durant un moment que nous puissions détruire le plan de l'ennemi contre nos vies. Contre notre ministère. Je vis comme quelqu'un portant une chemise blanche et les gens venaient pour tâcher cela. Les diables cherchent à décrédibiliser un homme de Dieu, à salir quelqu'un, mais j'ai la ferme conviction qu'il ne va pas réussir. Jérémie chapitre 18, verset 18 jusqu'au verset 23. Prière forte, genre de prière que nous ne faisons pas souvent, mais que quelquefois il faut faire. Écoutez ce que Jérémie dit. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-les avec la langue. Écoutez, tuons-les avec quoi? Avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Et maintenant, écoutez comment Jérémie réagit. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur.
et de te détourner d'eux de ta colère. Écoutez la suite. C'est pourquoi livrent leurs enfants à la famine. Quelle prière! Précipite-les par les glaives. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves. C'est Jérémie qui prie, c'est pas moi. Et que leurs maris soient enlevés par la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans les combats. Qu'on entende des cris sortir de leur maison. Quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour m'épandre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs iniquités. Toi, il va plus loin. N'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Et Jérémie dit, agis contre eux au temps de ta colère. Il y a un temps pour bénir, mais il y a un temps pour dire ennemi, non, tu t'amuses. Parce que quand l'ennemi nous envoûte comme il a fait pour Pierre, il ne blague pas. Il veut nous détruire. Nous n'avons aucune idée combien il nous haït, combien il nous veut du mal.